Vous rêvez d'un avenir dans le commerce, le transport ou la logistique? Le CFA Aftral Van, c'est la référence des formations en alternance du CAP au Bac plus 2. Nouveau en 2024, le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Contactez-nous vite, nos entreprises partenaires vous attendent déjà. Aftral, avenue Paul Duplex à Vannes.
Océane, légende bretonne.
Et une chronique un peu particulière aujourd'hui, puisqu'elle est liée à un son, lié lui-même à un rituel très ancien de la région. Écoutez d'abord ce son et essayez peut-être de deviner un petit peu comment il est fabriqué. On y va. Voilà, et ce son qui a fait l'objet d'un livre paru aux éditions Stéphane Batigne. Bonjour Laure Le Gurin.
Bonjour.
Vous êtes autrice, conseillère éditoriale, guide conférencière également, native de l'île de Watt, hein, on peut le signaler aussi évidemment. C'est vous donc qui avez écrit cet ouvrage avec Roland Becker, auteur, musicien, compositeur, chercheur en ethnomusicologie également. Sonnerie de bassin, un intrigant rituel du solstice, c'est donc le nom de ce livre. Mais dites-nous tout, d'abord, qu'est-ce qu'on entend là exactement quand on entend son, comment est-ce qu'il est produit?
Alors, on entend un son qui est produit avec trois matériaux de base. D'abord, un outil qui était central dans la société traditionnelle jusqu'à la moitié du XXe siècle en Bretagne, qui était ce grand bassin de cuivre jaune qu'on retrouvait dans toutes les fermes. On en a même des traces dans des inventaires au Moyen-Âge. C'était vraiment l'objet important. On n'avait pas d'autres contenants finalement. Donc, il y avait ce grand bassin de cuivre jaune. On cueillait des joncs dans les marais et on mettait un petit peu d'eau au fond de ce bassin. Pendant que quelqu'un d'autre tenait les joncs sur le bord de ce bassin, l'autre personne s'humectait légèrement les doigts et commençait à faire vibrer le jonc contre ce bassin de cuivre jaune, ce qui fait un bruit absolument considérable qu'on entend à plusieurs kilomètres à la ronde.
D'accord, alors ça devrait prendre évidemment beaucoup de place. On va parler parce que ça se passe à un moment vraiment particulier de l'année, mais d'abord peut-être, pourquoi est-ce que vous particulièrement vous êtes intéressé à cette sonnerie de bassin, donc comme on l'appelle, au point d'en faire un ouvrage complet. Comment vous l'avez découvert, ce rituel?
Alors, ce rituel, on l'a découvert tout simplement en habitant à Questembert un jour. Nous sommes arrivés dans cette jolie commune.
Du Morbihan.
Du Morbihan, mm-hmm. Tout à fait. Et qui est intéressant parce que c'est à cheval justement entre la Bretagne qui parle breton et la Bretagne qui parle gallois. Et il se trouve que cette pratique reflète cela également. Et donc, on a découvert cette affiche un peu intrigante d'un appel à la Saint-Jean, où il y aurait des sonneries de bassin. C'est ainsi que nous nous sommes rendus au village de Saint-Jean à Questembert et que nous avons découvert cette pratique qui nous a particulièrement marqué, sur laquelle on avait déjà écrit un article il y a une vingtaine d'années en ethnomusicologie. Et donc pourquoi le livre? Parce que d'abord, on remercie Stéphane Batigne d'avoir fait appel à nous pour ça, grand éditeur dans le Morbihan. Et en fait, on s'est dit aussi qu'il était temps qu'on écrive quelque chose d'ouvert au grand public, parce que quand on avait écrit l'article, c'était dans une revue scientifique, c'était un autre propos. Mais là, on trouvait, et on constate hein, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, finalement, on rencontre des gens qui sont beaucoup plus intéressés par cette pratique, pas parce qu'elle ouvre une infinité de questions, en fait.
Et bien justement, on en vient à ces questions concernant la fameuse sonnerie de bassin. Quel est en gros, est-ce qu'on le connaît d'ailleurs, le sens de ce rituel qui se faisait, donc on le rappelle, au soir du solstice d'été, pendant ces feux de la Saint-Jean?
Alors, en réalité, il y a des pistes possibles. Il n'y aura probablement jamais de réponse définitive, dans la mesure où ce qu'on a constaté, c'est qu'on a affaire là à une pratique populaire au sens total du terme, à savoir que la plupart, pas tous les gens qui pratiquent et qui ont pratiqué dans les différents témoignages la sonnerie de bassin, sont parfaitement, finalement, incapables de dire ce qu'ils sont en train de faire. En réalité, la réponse, c'est que c'est une expérience. C'est une expérience qu'on pratique ensemble, dans un moment particulier de l'année d'ailleurs, hein, c'est la Saint-Jean dans la plupart des cas. Donc il faut voir qu'on y associe le feu. On est vraiment dans une expérience, on dirait aujourd'hui, immersive. Mmh. Il faut s'imaginer qu'on est dans le silence, la nuit, et tout à coup il y a le bruit du feu, la lumière, les étincelles, la fumée qui est très importante au moment de la Saint-Jean. Ce son absolument assourdissant. Donc, Donc on est vraiment dans quelque chose qu'on peut potentiellement rapporter à ce qu'on appelle aujourd'hui la trance.
C'est ça, ça fait penser à tous ces... On peut parler de didgeridoo par exemple, c'est vrai que ça fait penser à ce type de son et tous les éléments presque sont réunis. Il y a le minéral avec le métal, il y a l'eau, il y a le végétal, il y a le feu comme vous le disiez, c'est vraiment très intriguant. Est-ce qu'il est lié à une époque particulière aussi?
Alors là encore une question qui restera en tout cas sans réponse, dans le sens où les premières traces écrites que nous avons de ces pratiques remonte à la toute fin du XVIIIe siècle et donc à l'orée du XIXe, parce qu'en fait ce sont des gens lettrés finalement qui écrivent sur les pratiques populaires. Les pratiques populaires, elles sont orales et donc par définition elles se transmettent ou pas, ou elles cessent de se transmettre à un moment donné. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit là d'une des rares pratiques dont on a la preuve qu'elle était pratiquée initialement au moins autant par les femmes que par les hommes. Et dans ce qui concerne la culture traditionnelle de Bretagne, ce n'est pas si fréquent finalement d'avoir ce type de
cette mixité dans la pratique, en fait, ce que vous voulez dire.
Exactement, exactement. Et peut-être même plus qu'une mixité à l'origine. En fait, plus on remonte dans le temps et plus les témoignages sont liés à des pratiques de femmes, et notamment particulièrement des pratiques de vieilles femmes, ce qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la culture traditionnelle bretonne. Vraiment le mythe de la vieille femme qui joue des rôles et qu'on retrouve dans des traditions bien plus lointaines d'ailleurs.
Il y avait cette mixité. Vous en parlez. Est-ce que toutes les catégories sociales étaient concernées également par cette pratique?
Alors ça, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, on a toujours l'idée que la culture populaire est une culture paysanne. En réalité, quand on étudie les témoignages, on s'aperçoit que cette pratique a eu lieu dans les villes et notamment dans des villes assez conséquentes, notamment dans les faubourgs de Brest. On a des très beaux témoignages également de Pontivy. Et donc, populaire, oui, paysan uniquement, essentiellement parce que c'est ça que nous, on en a vu dans les dernières années de cette pratique. Mais pour terminer, on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, cette pratique est en train de renaître avec des populations tout à fait nouvelles et que finalement, elle n'est pas morte, cette pratique, elle est en train de renaître.
Et c'est-à-dire, alors justement, c'est la question que j'allais justement vous poser, est-ce qu'on peut encore l'entendre au soir de la Saint-Jean, quelque part près de chez nous, dans la région alors?
Bah oui, bien sûr. Déjà, le village de Saint-Jean à Questembert, dans l'ambiance pratique, toujours, je sais que cette année... ils ont fait fort, parce que je crois savoir qu'ils étaient à plusieurs bassins, plus de 5, je pense.
D'accord. Ce qui a dû intriguer pas mal de gens à quelques kilomètres à la ronde, d'ailleurs, on imagine.
Exactement. Et d'autre part, s'il y a un endroit où c'est assez remarquable, c'est également à Payac, toujours dans le Morbihan. Nous y étions au mois de juin. Enfin, c'est assez remarquable parce qu'il y a un feu assez extraordinaire. Il y a une ambiance assez forte qui permet de comprendre ce que je voulais dire par ambiance ou expérience immersive.
Ouais, en le vivant, vous avez pu voir exactement ce que ça pouvait transmettre, peut-être comme énergie entre les gens aussi. Est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs aujourd'hui encore plusieurs villages, pourquoi pas côte à côte, qui pourraient tenter à nouveau l'expérience de le produire tous en même temps? Ça pourrait être envisagé, ça?
J'espère bien. C'est ce que j'ai particulièrement moi apprécié dans l'étude de cette pratique, c'est que c'est une pratique vraiment populaire au sens tout à fait intéressant du terme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous allez dans un vide-grenier, vous pouvez trouver un bassin en cuivre jaune. Vous pouvez vous demander où est-ce que vous allez trouver ces joncs. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans les gens qui ont lu ce livre, j'ai reçu des courriers de personnes qui m'ont dit « Ah là là, mais comment on fait pour sonner ? On a essayé, mais on n'a pas réussi. » Ou d'autres personnes qui m'ont dit une chose très intéressante. C'est ça que je trouve aussi bien, c'est que les gens vont s'emparer de ça. Qui m'ont dit, parce qu'on avait quand même une question intrigante, c'est ça se pratiquait aussi à la nuit de la Saint-Main, c'est-à-dire la nuit de la Toussaint. Et on se disait, mais comment sonnent les joncs finalement au mois de novembre? Et en réalité, il y a des gens qui ont fait le test là cette année.
Et ça fonctionnait.
Et ça fonctionne. Donc je suis très fière de ça, que les gens s'emparent de ça et
de participer aussi vous-même à travers ce livre justement à la renaissance de ce rituel également. Ce qui serait énorme, ça serait de voir des tutos sur Internet, sur les réseaux sociaux qui expliquent justement comment pratiquer ce rituel de la sonnerie de bassin. Ça arrivera peut-être. En tout cas, l'appel est lancé au village de la région évidemment qui souhaiterait le faire. faire. Ils peuvent, j'imagine, s'adresser à vous pour avoir plus d'éléments aussi
ah, bien
là-dessus.
Sûr. Bah, oui, d'ailleurs, j'avais commencé effectivement à faire des petites animations sur TikTok. Donc,
D'accord.
Ça me donne l'idée, effectivement, de continuer dans cette voie.
Bon, et
parce que c'est ça l'idée, en fait, aussi. C'est que ça aille vers des gens qui ne sont pas forcément très proches de ce type de recherche, mais qui sont proches de leur culture.
Et dernière chose, Laure Le Gurin, est-ce que cette sonnerie de bassin a eu ou a peut-être encore une influence ou utilisée dans la musique bretonne ?
Oui, tout à fait. C'est d'abord une musicienne du pays de Redon qui a enregistré pour l'un de ses albums dans les années 1970 cette pratique. C'est une pratique qui intéresse aussi beaucoup les milieux des danseurs parce qu'en fait, vous voyez bien le genre d'ambiance que cela crée. Donc, quand on est un créateur dans la danse bretonne, on est aussi intéressé par ça. Le milieu des baguedous est très intéressé aussi par cela. C'est-à-dire finalement, cette musique, elle est à la fois très ancienne et en même temps, elle nous ramène à quelque chose de très contemporain, bizarrement, très dépouillé,
bon,
le minimalisme. Voilà.
Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à commander ce livre disponible aux éditions Stéphane Batigne. C'était passionnant, en tout cas, d'en parler. Sonnerie de bassin, un intrigant rituel du solstice par Laure Le Gurin et Roland Becker. Et évidemment, on se quitte en écoutant une toute dernière fois cette sonnerie de bassin. Merci beaucoup, Laure Le Gurin.
Merci beaucoup à vous, en tout cas. C'était un vrai plaisir.